Donc bonsoir à tous. Je me positionne justement sur la droite ligne de ce qui a été dit jusque-là. Et vous le remarquerez tout de suite que ce soit les terres accaparées ou les semences accaparées, tout ceci sont des applications en fait de ce que de ce qu'est-ce qu je vais y arriver, ce qu'expliquait Geneviève sur tout ce qui est mis en place pour privatiser le commun. Les accaparements des terres, dans ce terme-là, on met plein de choses. Et d'ailleurs, ce terme est en discussion en ce moment dans plusieurs sphères, selon qu'on est à la FAO, FAO, ou qu'on est société civile, ou qu'on est chercheur ou scientifique, ou selon qu'on est administratif ou politique. On parlera plus d'acquisition ou de cession à grande échelle, tout ceci pour essayer de justifier un certain nombre de choses et passer certains points de vue. Donc, les accaparements des terres, ce que je vais faire, m'atteler à faire, c'est de parler des terres en Afrique. Geneviève avait dit également que ce qu'elle dirait serait fortement imprégné par sa culture d'occidentale. Eh bien, je vais essayer en trois lignes de vous dire ce que la terre pour un Africain. Et finalement, vous dire aussi ce que la terre est devenue lorsque, au sortir des indépendances, des copier-coller ont été faits sur les droits, plusieurs aspects du droit, hein, à l'occurrence du droit foncier. Ensuite, nous parlerons un petit peu de ce mot d'accaparement. Accaparement, spoliation, cession à grande échelle ou acquisition des terres en Afrique. Nous parlerons de son ampleur, de ses corrélations, mais sans trop s'attarder, parce qu'on a pas mal d'informations sur cet aspect-là, ses interactions et ses liens vitaux avec le déséquilibre alimentaire, ou plutôt avec la difficulté à atteindre la souveraineté alimentaire. Ensuite, nous allons parler de la mise en réseau. C'est un sujet qui m'est très cher en tant que directeur de l'association TETLA. La mise en réseau, d'abord les réponses citoyennes, comment les structurer et les rendre efficaces, puis la mise en réseau des sociétés civiles qui sont en lutte souvent sur ces questions d'accaparement de terres. Après, évidemment, il y aura certainement un temps d'échange sur cet aspect de mise en réseau et leur pertinence et leur efficacité par rapport à la réponse citoyenne sur le terrain. Donc, les terres en Afrique. La terre, c'est un bien, ce n'est même pas un bien dans la conception de tout Africain. Il n'y a même pas de mots pour expliquer ce que c'est la terre, parce que la terre, en fait, fait partie de ce qu'on trouve et de ce qu'on laisse. Voilà, on vient au monde, on apprend à la voir, puis ensuite on apprend à être dessus, sur la terre, à faire des choses avec, puis ensuite on s'en va. Donc la terre, y a pas, on ne qualifie pas la terre en Afrique. On l'a, c'est tout. On est dessus, on fait avec. En fait, pour tout Africain, l'Africain ne se dissocie pas de sa terre, qu'il soit paysan ou pas. Déjà, le mot paysan aussi, c'est un mot qu'on n'a pas non plus. Donc en fait, la terre est la mer, la terre est tout ce qu'on peut avoir. C'est une conception qui est très profondément ancrée dans les cultures africaines et qui se revoit également dans tous les aspects du développement ou de la lecture de la vie sociétale. L'expression corporelle par la danse aura toujours deux temps. On aura tout le temps les pieds bien à terre. Quand on saute, on retombe. S'il y a des danseurs, si, je vois qu'il y a quelques Africains dans la salle. Je crois que ceux qui font de la danse africaine ou de la danse traditionnelle africaine comprendront que ce battement qui revient, c'est vraiment la terre. Dans le fond de tous les beats africains, on a ça qui revient, c'est la terre. Donc le rapport à la terre est tellement ancré dans toutes les expressions, qu'elles soient rythmiques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient intellectuelles. Ce rapport à la terre aussi est également lié à la conception de la communauté elle-même. C'est-à-dire qu'une communauté ne se définit comme telle que grâce à un espace qu'on a appelé en français terre. Lorsqu'une personne grandit on considère qu'un Africain est grand et adulte lorsqu'il peut se déplacer du territoire familial, aller à quelques encablures de deux cases, et fonder et créer un lieu de résidence, enfin une maison, et finalement prendre pour femme et vivre avec cette terre qui est toujours là. Donc, en fait, on ne se dissocie pas de la terre ni dans la vision familiale, ni dans la vision culturelle, ni dans la vision coutumière, même pas en parlant d'ancêtres, parce que c'est encore la terre qui est à l'honneur lorsqu'on parle d'ancêtres. Sur ce contexte-là, vous comprendrez donc le déchirement qu'il y a dans la culture, dans l'être africain lorsque on lui apprend un jour que sur la terre ou les terres africaines, on va désormais catégoriser en trois groupes. Les terres du domaine public, les terres du domaine privé et les terres ne faisant aucune. Je m'entends plus. Donc la troisième catégorie serait les terres ne faisant partie d'aucune de ces deux premières catégories. Donc ils apprennent déjà dans un premier temps que les terres ne sont pas les mêmes et qu'en fin de compte il y a un rapport à la terre qui va changer. Et que du coup, la propriété rentre dans toute cette harmonie dont je viens de parler. Alors, on leur explique que la terre du domaine public est constituée des portions de territoire inaliénables parce que non susceptibles à la transaction ou simplement déclarées hors commerce. On leur explique aussi qu'il en est ainsi des routes, du domaine portuaire, des domaines aéroportuaires, des abords des mers. Bon, on a compris que dans le fonctionnement de l'Afrique avant l'arrivée de tout ça, c'est autre chose. On leur apprend que désormais, les terres du domaine privé, le mot privé déjà qui n'était pas perçu dans les cultures africaines, mais plutôt, on aurait pu dire les terres du domaine familial, les terres du domaine ancestral, les terres de... Ça aurait plus parlé, mais nous sommes sur du privé maintenant, ce qui dénote très bien où on va. Alors, qui sont l'objet des propriétés reconnues aux personnes morales, publiques, comme l'État, ou ses démembrements, ou privées, comme des sociétés commerciales ou des personnes physiques. Donc, alors, pour finir, pour parler de la deuxième catégorie, donc, on leur apprend que les terres du domaine privé, désormais, pourrait être une propriété de l'État ou de ses démembrements, ou alors une propriété d'une personne physique ou commerciale. Enfin, on définit quelque chose de pas clair qu'on a appelé au Cameroun, au Gabon et dans d'autres pays d'Afrique centrale, comme la République du Congo, les terres ne faisant partie ni l'un ni de l'autre, mais finalement du domaine national. Voilà, c'est pas très clair. Et tout ceci pour dire quoi ? Pour dire que les terres du domaine public étant inaliénable, la cession ne peut donc pas concerner ces terres-là, parce qu'on parle d'accaparement de terres. On ne parlera donc pas des terres du domaine public. On parlera certainement de ce qui reste, c'est-à-dire la terre qui pourrait appartenir à une famille, à un groupe ancestral, à un village. Et ces terres-ci, par contre, seront subordonnées, ou cette propriété sera subordonnée directement à la loi au sens propre et à la prépondérance de l'administration. Donc la cassure commence là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un intérêt de l'État, la propriété, ou plutôt, enfin c'est pas un mot, on va dire que cette terre qui était jusqu'à présent reconnue mais non dite et pas marquée et ni marquée nulle part, reconnue de façon générale appartenant à un village, cesse d'appartenir au village dès lors que et on décide comme cela que ça passe sous l'intérêt national. Et c'est d'ailleurs sur la base de cette lecture-là que les accaparements des terres, en tout cas pour l'Afrique, se sont avérés bénéfiques pour les grands groupes qui viennent s'installer sur l'Afrique. Donc, une fois que j'ai parlé des terres et que je vous ai également énoncé la lecture qu'on en fait aux yeux de la loi telle que transcrite au sortir des indépendances, parlons maintenant de l'accaparement lui-même. L'accaparement des terres arables. Déjà, le terre arable, c'est le latin arare. Ça signifie en fait une terre qu'on peut labourer, donc qu'on peut cultiver. Et du coup, il y a un mélange qui se fait selon les destinations de ces terres. Il y a un mélange qui se fait entre ces terres et les domaines forestiers ou des vallées qui ne sont pas forcément arables, mais qui finalement rentrent dans les projets de façon aveugle et finalement préservent une espèce d'opacité dans la compréhension de ce qu'on veut y faire. Alors, je continuerai sur les. Bon, alors pour les termes, pour finir avec les termes, j'ai dit tout à l'heure que l'accaparement, la spoliation, la cession, l'acquisition étaient des termes juste utilisés selon ce qu'on veut faire ou faire dire à l'accaparement des terres. Quelle est l'ampleur de l'accaparement des terres? Ça, c'est aussi un aspect sur lequel je voulais dire deux mots. C'est pas qu'en Afrique qu'il y a les accaparements de terres. Une organisation internationale de graines, que vous connaissez certainement, a fait une étude, un rapport qui, en 2012, sortait un tableau montrant finalement que l'accaparement des terres était un problème mondial. Que la quasi-totalité des États africains étaient impliqués ou concernés, qu'en Asie, on avait des pays comme le Cambodge, la Chine, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines qui étaient fortement sollicités, l'Australie, la Nouvelle-Zélande aussi, qu'en Amérique, on avait la Bolivie, la Colombie, le Paraguay, et même aux États-Unis, des accaparements ont été faits par des grands groupes, toujours à but pour des buts de production industrielle, sortant ainsi les populations entières sur leur utilisation vivrière de la terre. En Europe, on a connu la même chose en Espagne, on continue d'ailleurs de connaître ça en Hongrie aussi, en Lituanie, en Pologne, en Roumanie. Donc c'est bien un problème mondial. Et pourquoi j'insiste sur ce fait-là, c'est qu'en fait, le plaidoyer qu'on porte sur les accaparements de terres devrait être lu de façon multiple. Il y a les aspects des populations. Mais il y a également les aspects, comme on l'a dit plus haut, Geneviève et Michel, les aspects environnementaux. Les aspects environnementaux qui ne touchent pas que l'Afrique au loin ou l'Asie au loin, mais qui nous touchent ici. Je ne veux pas mentionner le débat de l'heure sur l'aéroport, mais quand même, les accaparements de terres peuvent être lus non pas dans le sens des immenses territoires qui sont préemptés ou même pris par la loi ou de force, mais aussi sur des constructions, certaines constructions non justifiées ou certains investissements qui finalement empêchent l'utilisation du commun. Donc, alors là, nous avons parlé un petit peu des accaparements des terres de façon globale. Je ne vais pas m'attarder sur la relation qu'il y a entre les accaparements des terres et les problèmes d'équilibre alimentaire, comme je l'ai dit plus haut. Pourquoi je ne le ferai pas? Parce que nous avons tous, certainement, nous savons que beaucoup de choses ont été faites, que des études ont démontré déjà ce lien-là, que plusieurs rapports ont été publiés par des ONG, des organisations sérieuses qui sont professionnalisées par des expertises de terrain et qui ont mené des études à la fois en Afrique, en Asie et même ici, pour montrer que les peuples ne peuvent s'équilibrer dans leur alimentation que s'ils ont la pleine gestion de leur sol, de la terre, que si elles réfléchissent, elles, à leurs besoins et mettent en place, et ça se fait de façon naturelle depuis des millénaires, mettent en place des habitudes qui leur permettent de vivre au travers de leur terre qui est en commun. Mais quand même, j'ai envie de parler de trois choses. J'ai envie de parler de Jean Ziegler, par exemple, que vous connaissez, qui a été jusqu'à dire que nous pouvons nourrir avec ce qui est produit aujourd'hui dans les mauvaises conditions, on peut nourrir 12 milliards d'humains. Cela a valu d'ailleurs à l'époque. Voilà, on continue à parler de cette phrase-là. Et donc, on connaît également tous ses travaux. Il a fait plusieurs pays dans le monde en tant que rapporteur du droit à l'alimentaire et du droit à l'alimentation. Et ses rapports et ses prises de parole montrent très clairement que d'autres façons de produire, d'autres façons d'utiliser le sol, donc finalement de considérer la terre, pourraient nous permettre d'atteindre ces équilibres alimentaires où qu'on soit sur la planète. Je citerai également des études telles que le rapport qu'a produit Coordination Sud, édité Coordination Sud, suite à un rapport de synthèse d'une étude qu'ils ont faite sur trois cas en Afrique, avec CCFD, Terre Solidaire, Locrète et même Peuple Solidaire. Vous connaissez bien certainement Antoine Boulay qui travaille sur les questions d'alimentation à Peuple Solidaire. Donc plein de choses ont été publiées et dites. Et ce qui a été intéressant sur ce rapport, il est bien mentionné qu'au-delà des effets négatifs directs pour les populations locales, tels que l'expropriation, déni des droits fonciers divers, destruction de l'environnement, la dégradation de la sécurité alimentaire dans les pays hôtes est un des risques majeurs à prendre en compte dans le cas des investissements pour les productions d'agrocarburants et de la production alimentaire destinée exclusivement à l'exportation ou à l'export. Donc, ceci montre, et bien d'autres rapports le montrent, hein, que l'utilisation de ces terres qui sont du domaine du commun, mais qui sont accaparées par des grands groupes et dans certains cas par des nationaux aussi, qui sont impliqués à la chose, mais quelquefois sans savoir où ils vont. Voilà. De toute façon, je l'expliquerai certainement lorsque nous aurons un échange là-dessus. Montre très clairement ce lien-là entre les accaparements des terres et le désordre alimentaire, ou plutôt le déséquilibre alimentaire qui s'installe petit à petit dans ces pays-là. Le CCF des Terres Solidaires est en ce moment en préparation, enfin, en tout cas va pour 2013 lancer une campagne sur justement l'équilibre alimentaire et les questions de souveraineté alimentaire et leur lien avec les accaparements des terres. Il y aurait des formes de sensibilisation, mais aussi des formes de des aspects de plaidoyer. Alors tout ceci montre qu'un travail est fait dans la société civile au nord pour comprendre ce qui se joue sur l'utilisation de la terre et pour comprendre également ce qui se joue dans cette façon-là d'utiliser, de privatiser ou de s'approprier le commun. Mais la question que tout ceci me suscite, c'est les sociétés civiles au sud. Au lieu de dire que fait la police, on pourrait dire que fait le peuple. Oui, que fait le peuple au Cameroun? C'est chaud en ce moment, pardonnez-moi l'expression, parce que les populations s'insurgent, sont bousculées, emprisonnées, et quelquefois il y a des blessures. Jusqu'à présent, des informations qu'on a, il n'y a pas encore de morts, mais ça ne va pas tarder, parce que il y a des implantations forcées, des expropriations pareilles dans les mêmes ordres, pour des sociétés qui arrivent, qui prennent 75 000 hectares de terrain, qui traverse plusieurs villages et du jour au lendemain, des paysans qui perdent les terres et puis finalement un désordre sociétal qui s'installe et rompt ainsi un équilibre de vie qui préexistait avant. Et donc, que fait la société civile? Elle essaie de répondre, mais est-ce qu'en répondant au sud par des mouvements frontaux, est-ce efficace? Peau de verre contre peau de fer, on va dire, du coup. On sait ce qui va arriver. Hein. Finalement, il y aura quand même implantation de ces grands groupes, il y aura quand même expropriation, il y aura quand même finalement des paysans sans terre, il y aura des familles entières qui se seront fait déposséder pour 100 ans, enfin 99 ans, 100 ans moins. Hein. Et au bout de ces 100 ans, qu'advient-il des terres? Est-ce que les clauses disent quelque chose sur ces questions? Les accaparements des terres qui ont eu lieu en 1950, qu'en est-il aujourd'hui ou en 1900? Parce que notons que ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant les indépendances, dans l'époque coloniale, il y avait déjà des accaparements de terres avec ce même type de bail. Donc il y a plein de questions qui sont sur la table. On peut analyser cette situation, on peut en parler. Mais nous, à l'association TETLA et avec l'appui du CROSI, qui est le collectif régional des organisations de solidarité internationale en Midi-Pyrénées, l'option que nous essayons de faire émerger, c'est de porter la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait, soit en appuyant en structuration, soit en appuyant en mise en réseau, les comités de lutte locale au sud, pour que de toute façon, c'est en mutualisant qu'on va arriver à trouver à la fois de la percussion nécessaire pour pouvoir faire inverser la tendance. C'est aussi en mutualisant qu'on va se nourrir des méthodes des autres afin d'être plus fort dans ce qu'on a apporté. Notons que donc dans cette droite ligne-là, l'association TETLA depuis 2011 et 2012 monte des tables rondes sur la question de l'accaparement des terres. Ce qui émerge jusque-là, c'est l'idée de fournir aux sociétés civiles sud des espaces qu'on pourrait appeler interface, sur lesquels il y aurait un réel échange des sociétés civiles sur la question, mais un échange éclairé avec des connexions qui leur permettent de voir ce qui se fait ailleurs, de prendre la parole pour essayer de mettre en adaptation ce qui a bien marché ailleurs par rapport à la situation locale. En tout cas, nous pensons que c'est seulement si les sociétés civiles se structurent, s'interconnectent en réseau, qu'elles auront de la réponse. Parce qu'au niveau des réponses, on en a au nord. Il y a eu des réflexions au nord, il y a eu des réflexions de terrain, et là je m'en vais vous parler pour finir, de ce rapport que j'ai devant moi, j'en ai imprimé quelques-uns. Il s'agit d'un plaidoyer pour une réforme du régime juridique des cessions de terres à grande échelle en Afrique centrale. Le thème qui ne fâche pas. Cession des terres à grande échelle. Bon, on va prendre ça comme ça pour ne pas dire accaparement des terres. Ce rapport a été édité par la Fondation internationale Friedrich Ebert, qui est une fondation allemande, mais une fondation internationale aujourd'hui, par son bureau du Cameroun pour l'Afrique centrale, avec des experts de terrain, des experts en droit foncier, droit public, toute espèce de droit qu'on peut trouver pour essayer de concourir à une compréhension de la situation. Des associatifs appartenant aux organisations telles que Graines, Peuple Solidaire et tout le reste, et tous les autres. Et ce rapport, en fait, fait un état des lieux des accaparements des terres en allant au plus profond, puisque là, on utilise pour le coup des locaux. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais je crois que je devrais m'arrêter. Et dans ce rapport, pour finir avec ce rapport, il y a des éléments. On va certainement revenir dessus. Je vais puiser beaucoup dans les préconisations de ce rapport pour apporter des éléments de réponse sur où on en est dans ce qu'il faut présenter dans une lutte citoyenne au Sud. Qu'est-ce qu'il faut leur dire? Parce que quelquefois, la société civile, comme l'a dit Michel, est très très informée sur les questions, même de loin plus informée que le politique qui est censé prendre la décision. Et donc, on est très informé en Afrique sur la lecture à faire de la terre. Et s'il faut accepter que des choses s'installent sur les terres, il faut peut-être que ça se fasse dans un cadre, dans une façon de fonctionner, dans une transparence. Et donc, finalement, il y a peut-être une formation, un coup à prendre, hein, comme on dit, hein, pour les sociétés civiles locales. Et ça, dans ce coup à prendre, il faut qu'il y ait des espaces d'échange, des petites formations montées, des interconnexions entre les différents pays nord-sud qui travaillent sur ces questions-là. On pense que d'ici à horizon 2015-2020, on pourra monter au sud et dans les pays où on montera ces interfaces, une vraie fluidité de l'information et même des appuis dans les luttes à porter, ne serait-ce que pour bâtir un plaidoyer fort. Donc voilà, donc je m'arrêterai là et peut-être que tout à l'heure nous en reparlerons.